Maintenant, on va aller du côté de l'histoire et géographie. Serge Tizi fait sa 19e émission. Comme quoi, les profs, même confinés, eh bien, ils travaillent. Et c'est une idée qui n'est pas si bête que ça. Aujourd'hui, la révolution américaine à destination des secondes et premières. La révolution américaine par Serge Tizi que je vous propose de retrouver.
Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Fréquence Mistral, chers élèves et chers confinés. Nous allons donc aujourd'hui poursuivre notre explication du siècle des Lumières. Et notamment, nous allons voir l'indépendance américaine et la constitution des États-Unis d'Amérique. Donc, les idées des Lumières ont eu une traduction concrète de l'autre côté de l'Atlantique dans les 13 colonies anglaises. C'est ce que l'on nomme la Révolution américaine. Elle commence en 1775 par la bataille de Lexington entre les insurgés, c'est-à-dire les Américains qui s'étaient rebellés contre le roi George III, et les troupes royales anglaises. Et s'achève en 1789, à la veille de la Révolution française, par la ratification de la Constitution républicaine des États-Unis d'Amérique et l'élection de son premier président, George Washington. Cette révolution va avoir une grande importance en Europe, dans les îles britanniques, jusqu'en Russie, en passant par la France et les États allemands. Les États-Unis seront l'affaire, la cause à suivre, voire à supporter l'idéal des Lumières en application pour la première fois. Ils inspirent non seulement les élites, mais les peuples, comme nous allons le voir maintenant. Quelles sont les origines de cette guerre d'indépendance américaine ? Les 13 colonies anglaises appartiennent à la couronne d'Angleterre. Ce sont des colonies de peuplement très majoritairement protestants. Il y a bien sûr des Anglais, il y a des Irlandais écossais, il y a des Irlandais, mais il y a aussi des Allemands, des Hollandais à New York, des Huguenots français partis qui ont transité par Amsterdam pour se réfugier dans les 13 colonies. Le protestantisme, ou plutôt les protestantismes, y sont dominants. Au sud, bien sûr, vous avez l'esclavage des Noirs africains, caractéristique de l'économie de la traite et des productions, notamment du tabac ou du coton. Mais Boston, ne l'oublions pas, est aussi un port qui participe à ce commerce triangulaire qui fait, je rappelle, la richesse des grandes villes portuaires atlantiques européennes, que ce soit Nantes, que ce soit Londres, Southampton ou Liverpool. Donc, et ce commerce triangulaire, pour rappeler, c'est un commerce qui part de l'Europe avec des pacotilles, des petits bijoux, fait du troc avec des Noirs ou des Arabes sur les côtes africaines, et à partir de ce moment-là, transporte ou plutôt déporte vers les Amériques, c'est-à-dire le Brésil, les Antilles, l'Amérique du Nord, eh bien une main-d'œuvre gratuite, pour ainsi dire, esclave noire, qui sera donc opprimée dans les différentes colonies européennes des Amériques. Donc ces Noirs américains habitent aussi dans ces 13 colonies américaines, et vous avez dans ces 13 colonies aussi des Indiens qui sont déjà en voie d'extinction, notamment sur la côte. Seules les nations iroquoises sont respectées. La grande menace pour les Anglais à ce moment-là a été la présence française au Canada et à l'ouest des Appalaches, c'est-à-dire de part et d'autre du Mississippi. Les Français sont moins nombreux, c'est-à-dire qu'au moment où on les compte à peu près 60 000 Français en Amérique du Nord à ce moment-là. Mais ils ont des alliés indiens qui leur sont fidèles durant toute la guerre, et notamment la guerre de 7 ans entre 1756 et 1763. Elle oppose en effet cette guerre la France et l'Angleterre avec leurs alliés respectifs, c'est-à-dire les Amérindiens compris. Les colons anglais des Amériques soutiennent l'Angleterre et enclenchent une guerre qu'ils nomment eux-mêmes la French and Indian War. C'est à cette occasion qu'apparaît pour la première fois George Washington et que se forme à Albany la première convention, c'est-à-dire la première réunion de représentants des 13 colonies pour savoir qu'est-ce qu'on va faire contre ces Français maintenant que nous sommes en guerre contre eux. Donc les Français résistent bien et c'est la prise de Québec puis de Montréal et de Détroit qui mettent fin à la souveraineté française et non pas à la présence française en Amérique du Nord, si ce n'est bien sûr Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc la Grande-Bretagne ressort vainqueur face à cette France qui perd non seulement ses colonies américaines mais aussi ses colonies en Inde, ne gardant plus que des comptoirs. Les impôts donc augmentent en Grande-Bretagne pour financer cette guerre. Comme elle les finance sur sa population britannique, elle décide aussi de financer cette guerre par les 13 colonies qui jusque-là contournaient les interdits avec de la contrebande vers les colonies françaises ou espagnoles des Amériques. Le roi George III interdit à la colonisation la région des Grands Lacs et l'ouest des Appalaches pour ne pas indisposer les Indiens. Des Indiens qui étaient donc de grands alliés des Français et qui n'ont pas apprécié la venue des Anglais et qui se sont révoltés avec notamment leur chef Pontiac. Ces deux décisions, celle d'augmenter les taxes et celle donc d'empêcher la colonisation européenne au-delà des Appalaches et vers la région des Grands Lacs, a été jugée inaccessible et suscite des manifestations de colère ou de désapprobation au mieux. Et notamment, une des grandes manifestations que vous devez retenir, c'est celle notamment du Boston Tea Party en 1773. Effectivement, des Américains déguisés en Indiens arrivent sur des bateaux chargés de thé anglais et le déversent dans la mer. À ces mouvements de protestation ou de colère, la monarchie anglaise, non tenue dans sa colonie ou dans ses colonies par le Bill of Rights, répond par l'envoi de troupes. Et cet envoi de troupes indispose fortement l'élite des 13 colonies. Et ces 13 colonies envoient en Angleterre l'un de leurs savants les plus réputés, Benjamin Franklin, représentant du Massachusetts, pour réclamer le droit d'avoir des représentants à la Chambre des communes afin de discuter au même titre que chaque sujet du roi d'Angleterre de la taxe et de l'imposition. Ce droit, bien sûr, lui est refusé donc refusé aux Américains par le roi. Ce qui conduit à un premier congrès continental en 1775 avec la constitution d'une armée continentale dont le chef sera celui qui s'était le mieux battu contre les Français. C'est-à-dire George Washington. Le 4 juillet 1776, après plusieurs semaines de travail, Thomas Jefferson propose la déclaration d'indépendance des 13 États-Unis d'Amérique. Il est assisté de John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman et Robert Livingstone pour la rédaction de cette déclaration. Elle déclare quoi ? Mais que tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables, dont la vie, la liberté, la recherche du bonheur. Le pouvoir des gouvernants émane exclusivement des gouvernés. Le texte ne concerne, attention, ni les esclaves, ni les Amérindiens. Pour une raison très simple, c'est que le rédacteur Jefferson George Washington sont des propriétaires qui possèdent aussi des esclaves noirs et donc il n'était hors de question pour eux de remettre en question l'une de leurs sources de richesse. Dans un deuxième temps, cette déclaration d'indépendance marque surtout une grande défiance vis-à-vis du roi. Le roi est accusé en fait d'avoir poussé les peuples des 13 colonies à se révolter et donc à se rendre indépendants. Donc c'est véritablement important de le souligner que c'est la faute du roi et non pas des insurgés. La guerre est une série ininterrompue d'escarmouches et de batailles, doublée d'une guerre civile entre partisans des insurgés et les loyalistes qui restent fidèles au roi d'Angleterre. La bataille de Saratoga et la victoire des Américains est un tournant car c'est la cause reçoit le soutien du roi de France Louis XVI et celui d'Espagne à partir de 1777. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que le roi de France se jette dans la bataille ? Alors certains y ont vu une vengeance vis-à-vis de la défaite de Louis XV vis-à-vis des Anglais, mais ce n'est pas véritablement la raison. La raison, c'est que Louis XVI est poussé par son opinion publique. L'opinion publique française, l'opinion publique européenne, vibre pour les insurgés. Lafayette et d'autres Européens soutiennent la cause. Ils ont même remis en question le principe d'obéir au roi. Quand le roi Louis XVI a interdit au jeune Lafayette, qui n'était pas encore majeur, de quitter la France pour aller rejoindre les insurgés, qu'a fait le jeune Lafayette? Ben, il est quand même parti avec un certain nombre d'aristocrates avec lui, de jeunes aristocrates, pour aller combattre auprès des insurgés. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une cause qui paraît noble aux fidèles des Lumières. Voici des citoyens en armes, des victimes de l'oppression de la monarchie contre des troupes anglaises, en plus des mercenaires allemands payés par le roi George III sur les deniers publics, qui luttent contre des citoyens en armes. Donc on porte les couleurs des insurgés. Bleu, blanc, rouge devient une couleur que l'on porte quand on est un aficionados des États-Unis d'Amérique et de leur lutte contre l'Angleterre. Ce sont d'une certaine façon les idées des Lumières contre la monarchie absolutiste. Louis XVI accepte pourtant Louis XVI et son ministre Vergennes. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un homme clé qui est arrivé envoyé par les États-Unis à Paris. Qui s'appelle Benjamin Franklin. Et Benjamin Franklin est donc bien ce savant reconnu déjà de façon internationale et cet homme des Lumières, mais il est aussi accueilli dans le tout Paris et à la cour comme étant le représentant de cette nation, et sa bonhomie, cette faculté à accueillir les gens en sortir de sa baignoire, eh bien fait que il devient un homme très populaire. On le retrouve au café Procope, on le retrouve dans des petites cours, on le retrouve un peu partout, et dans le tout Paris, on en parle. Donc Louis XVI est un peu contraint et forcé de partir au combat, et en plus de ça, ça redore un peu son blason. N'oublions pas tout ce qui avait été raconté par Louis XVI, qui avait du mal à avoir des enfants. Donc voilà, son côté masculin est remis un peu en avant. Donc, il envoie une armée qui est commandée par Rochambeau, qui quitte Brest en 1781, suivie par l'amiral de Grasse, qui commande la flotte, qui va vaincre, donc, pour une fois, les Anglais au large des Amériques et au large des Antilles. La conjonction de ces forces françaises, plus les Espagnols, ne les oublions pas, qui rejoignent le camp aussi, pour des raisons de commerce, un peu une raison commerciale, on va dire, eh bien font que les Anglais sont encerclés et vaincus à Yorktown le 19 octobre 1781, ce qui met fin au conflit entre l'Angleterre et les insurgés. Le traité de Paris, puisque les États-Unis naissent officiellement de façon internationale au traité de Paris, le 3 septembre 1783, donc met fin à cette guerre. Donc toute la question est, à partir de ce moment-là, quel gouvernement avoir une fois libre. Les États-Unis n'ont pas créé une démocratie comme ça en claquant des doigts. Ils vont mettre 6 ans avant de trouver un gouvernement. La seule chose sur laquelle les 13 colonies étaient d'accord, c'était le principe, on va dire, républicain, c'est-à-dire respublicain, la chose publique, c'est-à-dire que ça devait appartenir à tout le monde. Mais en fait, au départ, ils étaient plus pour une confédération. Chaque État faisait en fait ce qu'il voulait, et en mettant dans le pot commun un peu ce qu'on fait en ce moment avec l'Union européenne, c'est-à-dire en fait ce qu'on veut. Et en fait, ils étaient arrivés à se faire des concurrences entre eux, Massachusetts contre l'État de New York, la Pennsylvanie, et donc tout ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, les Américains ont décidé de réunir une nouvelle convention qui s'est réunie à Philadelphie, avec comme président George Washington, comme secrétaire James Madison, et donc cette nouvelle convention a créé la Constitution des États-Unis d'Amérique telle qu'elle existe encore aujourd'hui, mis à part les quelques amendements qui seront adjoints par la suite. Ce texte, il commence par quoi? Cette Constitution que par exemple, France par « Nous, le peuple des États-Unis, nous établissons cette Constitution » et voici comme c'est ainsi qu'elle s'achève. Qu'est-ce qu'elle crée ? Eh bien, elle crée quelque chose qui n'existait pas avant 1789 et sa rédaction, c'est-à-dire un peuple américain. Un peuple américain, c'est-à-dire une nation de citoyens. Crée aussi un contrat politique. C'est le peuple américain qui crée les États-Unis d'Amérique et c'est pas les 13 États qui créent. C'est donc bien le peuple américain. Mais attention à ce moment-là à ce qu'on entend par peuple. Ne croyez surtout pas que les États-Unis ont créé une démocratie telle que l'on peut le voir aujourd'hui, le vivre aujourd'hui, c'est-à-dire un suffrage universel. En effet, ils sont exclus du suffrage universel, donc les femmes. Les noirs, donc esclaves, les amérindiens, les pauvres, et en fait ne peuvent être considérés comme citoyens que des blancs, des protestants et des propriétaires. Pour voter, pour être éligible, il faut être propriétaire. Ce qui va faire pousser, bien sûr, un certain nombre d'Américains à devenir propriétaires le plus rapidement possible, quitte pour cela à massacrer les Indiens dans la conquête de l'Ouest. La séparation des pouvoirs, cette séparation des pouvoirs, chère à Montesquieu, que Montesquieu avait donc érigé en principe philosophique, eh bien, elle est clairement définie dans la Constitution des États-Unis d'Amérique. Nous avons ici une première constitution où la séparation des pouvoirs est garantie. Effectivement, le législatif, c'est-à-dire le fait de faire des lois, le fait de déclarer des guerres, le fait de faire des choses de ce type, appartient pleinement au Congrès, c'est-à-dire à la Chambre des représentants et au Sénat. L'exécutif, lui, est présenté par le président des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, à ce sujet, les Américains ont aussi réfléchi, est-ce qu'il fallait un président, est-ce qu'il fallait pas un roi ? Certains ont même voulu avoir un roi à un moment donné. Roi, ça voulait dire revenir à George, donc c'était pas possible, on pouvait pas revenir en arrière, donc il fallait un président. Donc, le pouvoir judiciaire, lui, il est mené par ce qu'on appelle la Cour suprême. Alors, il y avait un débat. Quelle capitale ? Alors, Philadelphie, Boston, les deux villes ne se supportant pas, on va dire, parce que l'une voulant avoir la primauté de l'autre par rapport aux origines de la Révolution américaine, eh bien, il a été décidé par cette convention qu'on créerait une capitale sur rien, c'est-à-dire donc a été décidé de créer la capitale de Washington dans ce qu'on appelle le district de Columbia, qui n'est pas un État. Donc, ces 13 États des États-Unis d'Amérique restent donc avec leurs lois propres, leurs règles propres, leurs lois sur la santé, leurs lois, voilà. Ce qui diffère beaucoup, c'est donc la politique extérieure et la future politique d'expansion. Donc, le premier président est donc George Washington, qui devient le premier président des États-Unis d'Amérique le 30 avril 1789. Et New York devient, en attendant que Washington se construise, devient la première capitale. Donc la guerre et le retour des soldats français de Rochambeau, mais aussi des idées philosophiques, ont un retentissement en Europe. N'oublions pas que cette guerre va susciter des révoltes en Irlande, aux Pays-Bas belges, des régions vont se soulever, vous allez avoir des chants patriotiques dans les vallées, dans les villes rhénanes, vous allez avoir des engouements, et la Révolution française peut être considérée comme étant la fille de celle des États-Unis d'Amérique. Lorsque les députés du tiers-état et ceux de la noblesse et du clergé décident lors du serment du jeu de paume en juin 1789 de ne pas se séparer avant d'avoir rédigé une constitution, la référence à la nouvelle constitution américaine est clairement établie. Nous avons ici bien une élite qui représente les aspirations du peuple et qui demande en fait la constitution comme étant la règle de gouvernement d'une nation moderne qui est digne du siècle des Lumières. Voici ce que nous pouvions dire aujourd'hui sur la Révolution américaine. Je vous invite toujours à lire beaucoup de livres, à vous renseigner fortement sur cette période et sur les acteurs de cette période. Et puis je vous souhaite à tous une très belle journée, un bon confinement et puis ou déconfinement pour certains. À demain. We're all living in America.
America, it's wunderbar. We're all living in America, America, America. We're all living in America, America, it's wunderbar. We're all living in America, America, America.
Wenn ihr tanzt, wird will ich führen, auch wenn ihr euch alleine dreht. Lasst euch ein wenig kontrollieren. Ich zeige euch, wie's richtig geht. Wir bilden einen lieben Reigen. Die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen.